Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues, j'ai perdu mes dents, sur vos roues, j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, pas de rougir les rues d'un gars, sans oublier les rues de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette, sincèrement, j'ignorais le temps, cela peut arriver aux prophètes, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, avant que je perds la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marceau Crève. Le seul moyen de dire au public que j'en aurais cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes toute de Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais excuse l'Élysée si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, ce qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains.
Bon cuisinier.
L'émission de Groupe Russe Michel sur Radio Libertaire. Comme vous avez pu le constater, François est parmi nous aujourd'hui. Bonjour François. Alors, on se rappelle quand on est à l'antenne, François.
Oui, d'ailleurs, je vois là, il y a un feu rouge là-haut.
Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jean-René. Jean-René, bonjour.
Bonjour Mariama.
Alors, nous allons parler de la revue Réfraction, qui est un site internet. Revue-réfraction.net et le numéro 53.
Le petit dernier.
Le tout petit dernier, effectivement, qui a la particularité d'être plein de choses et qui a pour titre Sur les ailes de l'utopie, Ronald Craig.
Oui, ce numéro 53, c'est un point d'inflexion. Réfraction est une revue semestrielle. Donc 53 numéros, ça veut dire 27 ans. Pas 26 ans et demi, parce que l'année dernière, nous avons un petit coup de mou. Après le 52, on a fait une pause, on ne savait pas si on allait repartir ou pas. Et finalement, nous sommes repartis.
Et on en est très ravis.
Et merci, nous aussi. Et nous sommes repartis avec ce numéro 53 particulier, parce que c'est un numéro particulier d'une part, parce qu'il inaugure une nouvelle maquette, il inaugure un nouveau format. La revue Réfraction reste une revue centrée sur un sujet principal qui fait le dossier. Simplement, dans la nouvelle maquette de Réfraction, nous serons vraiment désormais que centrés sur ce dossier. Il y aura une thématique qui sera traitée, des archives, mais en rapport avec la thématique du dossier, des recensions de livres en rapport avec la thématique du dossier, alors que dans la Réfraction, ancienne formule, nous nous autorisions une rubrique qui s'appelait transversale pour justement des articles qui n'étaient pas en lien avec le dossier, ou une rubrique qui s'appelait pour continuer le débat lorsque il y avait quelques conflits qui mettaient quelques numéros à s'épuiser avec des personnes qui se répondaient. Et ce numéro 53, donc qui est un hommage à Ronald Craig, qui est qui est mort en 2023, à l'âge de 95 ans, je crois.
94,
merci. Mais enfin, il méritait, on va lui rajouter une petite, quelques mois supplémentaires pour la 95, il le méritait bien. Et qui fait partie de ceux qui ont créé Réfaction au début. Et moi, j'y étais pas, mais ceux, les anciens, qui nous racontent les débuts de Réfraction, disent tous qu'il a apporté Réfraction, notamment son énergie, sa pétillance, sa vivacité, son appétit de réfléchir, de sa curiosité. Et le premier numéro de Réfraction, alors que certains collectifs avaient décidé de créer une revue, c'est pratiquement Ronald Craig qui a apporté les éléments du numéro 1 de Réfraction. Et donc pour ce numéro 53, on était, comme je vous ai dit, on était l'année dernière dans un passage à vide, on s'est beaucoup questionné en interne collectif, et nous avons trouvé tout à fait pertinent, on voulait faire de toute façon un numéro hommage, faire une publication hommage à Réfraction, hommage à Ronald Craig, et on a choisi de le faire comme un numéro de Réfraction. C'est une manière de fermer une porte d'une première période de Réfraction avec une personne qui aura été assez déterminante dans l'ouverture de la porte de Réfraction.
D'accord. Alors, sur les ailes de l'utopie.
Sur les ailes de l'utopie, c'est vraiment. Ça reprend le titre d'un des articles, mm-hmm. puisque cette anthologie des articles de Ronald, on cherchait aussi à montrer les différentes facettes de sa curiosité, et l'une d'entre elles aura été, il s'est beaucoup intéressé au mouvement, aux expériences d'utopie pratique aux États-Unis. Mm-hmm. Et donc les ailes de l'utopie, c'est pas nécessairement le titre d'un article d'ailleurs, mais c'est
dans un article
celui consacré précisément à une petite un exposé de différentes expériences d'utopie concrète aux États-Unis, un article comme tous les autres très intéressant qui montre à la fois l'enthousiasme, l'élan et les difficultés auxquelles ont été confrontés ceux qui ont fait ces tentatives, y compris la difficulté à sortir des schémas moraux ou des schémas culturels de la société dans laquelle ils étaient pris. Et puis sur les ailes de l'utopie, parce que justement dans cet article et dans le tout premier article, il théorise entre guillemets un petit, parce que c'est pas par ailleurs pas un théoricien, mais il théorise un petit peu, il s'approprie pour le mouvement libertaire le reproche qu'on nous fait de n'être au mieux que des expériences éphémères qui finissent par se casser la gueule, etc. Et lui nous dit, mais justement, l'anarchie, l'anarchisme, c'est dans ce moment-là, et qui peut durer une semaine, qui peut durer quelques mois, qui peut durer quelques années, effectivement rarement plus, mais ça fait rien, c'est dans ce moment-là qu'on
est les meilleurs.
Qu'on est les meilleurs et qu'on peut pénétrer et être pénétré par l'anarchie et par l'anarchisme.
Voilà. Alors,
et puis c'est un très beau titre.
Shelley, il avait une belle image pour ça, parce qu'il sentait un peu comme Ronald Craig. Il disait que la révolution, c'est comme un tison qui rougeoie et qui tient jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Tu vois, comme ça qu'il cernait la révolution.
Et jusqu'à ce que ce tison, avant de s'éteindre, mette le feu à une autre brindille qui va prolonger quelque chose.
Alors,
Et en plus, c'est un personnage quand même très, très singulier, Ronald Craig. On apprendra dans ce numéro, pour ceux qui ne le savaient pas, qu'il a commencé par penser avoir une vocation de servir Dieu en tant que prêtre. Quand Ronald nous montre des photos de lui en soutane au séminaire, c'est quand même assez savoureux que ce soit un personnage comme ça qui finissent la manière avec laquelle il dit dans l'un de ses articles qu'à un moment donné, c'est un collègue qui lui dit mais t'es anarchiste, toi, t'es... Et c'est la réplique de l'autre. Il dit bah oui, je suis obligé de constater, je le suis devenu, mais il n'y avait pas pensé. Et donc, sur les ailes de l'utopie, si on va dans les représentations classiques, les ailes, le ciel, c'est assez amusant et correspondant au personnage que nous mettre un anarchiste dans le ciel sur des ailes.
Bon. Alors, Marianne Henkel fait l'introduction.
Oui, j'aime bien parce que tu me stimules simplement en me prêtant un nom. Bon, alors, Marianne Henkel.
Excuse-moi.
Non, c'est pas ça, ça m'amuse. Marianne fait partie du collectif de réfraction depuis le début aussi. Et Marianne, pour ceux qui la connaissent pas, alors je ne dis pas qu'elle préside aux destinées, parce qu'aucun anarchiste, aucune anarchiste ne peut prétendre présider à quoi que ce soit.
Oui. À part quelques exceptions assez lourdingues, quand même, pour bien le dire.
Mais là, ce n'est pas le cas. Mais son destin personnel, si je veux dire, est quand même très attaché au CIRA, le Centre international de recherche sur l'anarchisme à Lausanne. Et ce qui nous permet d'avoir à réfraction une puissance de mémoire sur le mouvement anarchiste absolument extraordinaire. Elle est quand même très souvent à l'origine des anarchives qu'elle nous trouve en lien avec les sujets qu'on traite.
Comme dit Marx, l'histoire appartient à celui qui possède les archives.
Alors, non seulement elle possède des archives, mais elle sait les utiliser. Et elle fait partie de ces personnes qui essayent de suivre encore aujourd'hui tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qui s'écrit. Et elle est une personne essentielle au collectif. Et qui fait le pendant avec Ronald. Et effectivement, du coup, elle a fait partie dans ce numéro de la commission du numéro, au sens où elle a été parmi les quelques-uns et quelques-unes qui ont fait le choix des textes retenus pour faire l'anthologie, cette petite anthologie raisonnée et choisie pour ce numéro 53. Mmh. Et effectivement, elle a la tâche même pas lourde. Je pense que ça a été facile de présenter ce numéro et de présenter Ronald.
D'accord. Bien. Alors, ma vie dans le cyberespace. On va commencer.
on va les faire.
Ça te dérange pas ?
Mais arrête de t'excuser. Si tu me présentes tes excuses, je les refuse parce que tu n'as pas de motif de m'en présenter.
Parfait.
Voilà.
Je vais être odieuse.
Très bien.
Finalement, beaucoup de ceux qui nous écoutent me trouvent odieuse.
Ah bon?
Oui, et ils le font savoir et ils ont raison, je suis odieuse quand ça me prend.
Bien.
Tu donnes
à tes invités le beau rôle. Du coup, j'espère que tous les auditeurs et auditrices feront savoir qu'ils me trouvent particulièrement gentil, sympathique, etc.
Voilà.
Et représentant Réfraction.
Compliant.
Et Ronald et Ronald Craig.
Compliant, je dirais.
Alors, moi, ce que j'ai trouvé fantastique, c'est que dans cet article, il reconnaît qu'il a eu une plus grande efficacité grâce à Internet. Que l'information alternative étant censurée parce qu'il s'est intéressé à Internet au moment de la guerre du Golfe. Voilà. Et donc, il a décidé de fournir des données de la plus haute qualité possible gratuitement. Parce qu'il a constaté qu'on demandait de l'argent systématiquement pour avoir des informations de qualité. Donc, quelque part, il y a à cette époque-là, il a réfléchi aux possibilités d'Internet et toute sa réflexion est toujours d'actualité.
Alors, il faut effectivement se rappeler que cet article « Ma vie dans le cyberespace », déjà ce sont des titres, enfin, qui sont, quand on a croisé un petit peu Ronald Craig, c'est assez émouvant parce que ça correspond vraiment au personnage. Mm-hmm. C'est un article de 2003 dans la réfraction numéro 10 qui s'appelait « Les anarchistes et Internet ». Et en 2003, souvenons-nous, moi je suis cheminot, j'étais à la SNCF, je n'ai eu une boîte mail professionnelle qu'à partir de, c'est en 2000 ou 2001 je crois, hein. Donc on est vraiment au début de l'usage d'Internet, qui dans un premier temps est surtout des messageries, et puis pour se transmettre des documents.
Et des jeux.
Des jeux, et aussi pas mal d'images pornographiques, ça a été le premier usage de transmission. Mais voilà, en 2002-2003, certains camarades, dont Ronald, dont aussi Pierre Sommermeyer, dont Jean-Emmanuel Trémont, ont estimé que Réfraction devait scoltiner la question de Internet et les anarchistes. Ça a été, moi j'étais pas encore à Réfraction à l'époque, semble-t-il, il a fallu batailler un peu pour prendre ce sujet-là, que d'autres dans le collectif trouvaient pas pertinent, pas encore intéressant, ou qu'on n'avait rien à dire dessus. Et Ronald a été très moteur dans ce numéro-là. Et effectivement, quand on lit cet article, Ma vie dans le cyberespace, bien sûr, on n'y retrouve pas ce qui fait aujourd'hui la question de l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, mais il y a encore autre chose. Enfin bref, ça va me revenir tout à l'heure à la fin de l'émission, pendant le générique de fin. mais par contre, c'est intéressant de le lire aujourd'hui parce que la manière avec laquelle il s'est posé des questions sur Internet, la question une diffusion d'informations qui n'était pas possible dans les canaux classiques jusqu'à maintenant, bien contrôlés par toutes les institutions dominantes, que ce soit l'État, que ce soit les puissants économiquement parlant, ceux qui maîtrisent l'information, etc. Et en même temps, le risque de déréalisation du réel à travers le monde virtuel. Enfin, les questions de l'époque sont posées d'une manière dont on peut voir aujourd'hui que c'était bien celle-là qui avait à se poser.
Il est très pertinent, donc
c'est pas un article qui va aborder par exemple la question de l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais la manière de poser les questions, d'aborder Internet il y a 20 ans, puisque c'est un article de 2003, on voit à quel point il était pertinent.
Visionnaire, on dit, dans ces cas-là.
Oui, visionnaire, si tu veux. Et combien son intelligence, sa pétillance fait que il avait vu les choses. Et cet article Ma vie dans le cyberespace est à mettre en lien avec l'hommage de Pierre Sommermeyer, puisque le numéro est conçu avec des articles de Ronald Craig et ensuite une série d'articles qui rendent hommage, des manifestations d'amitié, c'est comme ça que c'est présenté, et notamment celui de Pierre Sommermeyer qui a été avec Ronald Craig dans l'aventure du site internet qu'il avait créé lui, Raforum. Qui était représenté avec par un phare dans la nuit qui nous éclaire
pour nous éviter les écueils.
Comme tu le rappelais, Raforum, son objectif c'était de fournir l'information de la meilleure qualité gratuitement. Et ça a été avec un fouillis un fouillis en apparence, qui fait que quand on rentrait sur le site de Raforum, une consultation de quelque chose, on appelait une autre, etc. Et on s'embringuait dans un truc dont on savait plus ressortir après, mais ça correspond bien à la curiosité et à la vivacité d'un d'un Ronald.
D'accord. Donc dans le sous-paragraphe, oui, donc le réel, il insiste bien sur le fait que le village global, contrairement à ce qu'on pense, il est bien clôturé, car seules y accèdent les populations les plus aisées. Il y a un fossé entre les riches et les pauvres qui s'élargit de plus en plus, et le réseau est ouvert à très peu, s'ouvrira et très peu ouvert, et il sera peu probablement ouvert à tout le monde. Donc il y a un monde à deux vitesses, et il fait le parallèle avec la guerre en Afghanistan.
Oui, c'est-à-dire que il ne se laisse pas piéger par... c'est-à-dire quand il parle d'Internet, il ne parle pas simplement soit des merveilles, soit des horreurs de l'outil. Il n'oublie pas que cet outil-là, il est dans une construction, dans une organisation sociale hiérarchisée, avec des dominants, avec des dominés, et que, exactement comme tu viens de le rappeler, ce fameux village global, il a des entrées, c'est un village... oserais-je dire de colons qui est barricadé dans un espace de colonisé ou de serre, je ne sais pas, serre SERF, hein, pas CERF. Et oui, son analyse des choses, eh bien, il n'oublie pas la dimension de la construction sociale de ce dans quoi c'est.
Parce que, en fait, pour conclure l'article, il dit il y a Internet a créé un nouveau type de capitalisme qui est fondé sur les flux globaux de capitaux en temps réel.
Oui, c'est l'immédiateté d'Internet. Ça a donné ces mails où maintenant on s'échange l'information.
Non, puis les traders
avec
aussi.
Cette immédiateté, mais cette immédiateté, elle a d'abord été au service de, effectivement,
la
finance qui permet
de boursicoter,
de surmultiplier les travers d'un système financier de création de valeur virtuelle, de valeur financière virtuelle, avec et y compris des machines qui, en fonction d'ABAC et de logarithmes, ordonnent des achats, des ventes sur les bourses en permanence 24 heures sur 24, puisque à travers le monde, il y a toujours une bourse financière qui est ouverte. De toute façon, maintenant, c'est 24 heures sur 24 partout. Donc oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas naïf. Il ne se cantonne pas à voir Internet comme l'usage qu'il pourrait en faire lui ou que nous pourrions en faire en tant que militants, que le citoyen lambda peut en faire en tant que simplement comme moyen de correspondance. Il n'oublie pas et il le décrit bien que ça sert à la machine capitaliste aussi.
Bien. Donc dans le chapitre « Le temps expliqué à ceux qui n'en ont pas », il rappelle que le privilège du temps, c'est de mettre la maîtrise du temps des autres est réservée aux élites. On dit bien le temps, c'est de l'argent. Nos horaires concrétisent notre aliénation dans un monde. Il faut repenser l'idée du temps. Le temps n'existe pas en soi.
Oui, oui. Alors, moi, je ne suis pas celui qui ait fréquenté le plus Ronald, même si je l'ai fréquenté au sein de la fraction. Par contre, ce qui m'a touché en relisant ces articles-là, une fois que le numéro est sorti, c'est que dans chacun de ces articles, il y a toujours quelque chose qui fait écho en moi à des expériences très concrètes et très intimes que j'ai pu vivre. Et je pense que si ça fonctionne avec moi, ça doit fonctionner avec beaucoup de lecteurs ou lectrices. Alors sur le temps qui n'existe pas en lui-même, moi, ma propre expérience auquel ça me renvoie, c'est j'ai fait du bateau. Quand vous êtes sur un bateau, le temps est... Le temps n'existe pas. Enfin, c'est pas qu'il est suspendu, c'est qu'il a une autre échelle. Et même si on a une montre au poignet, le temps perçu à une autre échelle. Donc ça, c'est simplement la perception subjective du temps. Et ça, on peut faire chacun cette expérience-là à des moments différents. Moi, c'est le bateau, mais ça peut être pour chacun d'autres choses. Et là encore, comme tout à l'heure pour Internet, avec l'usage d'Internet pour démultiplier, surmultiplier les mécanismes fous de la finance internationale, il inscrit bien sa perception du temps et sa compréhension et son analyse du temps dans une organisation sociale située où effectivement ce sont les dominants, l'Église, l'État, le capitaliste à travers l'organisation du travail qui domine le temps et enfin qui maîtrise le temps et qui impose à l'autre son temps. nous voyons imposer notre temps par l'autre et du coup comment est-ce qu'on y résiste dans sa vie, chacun au quotidien, individuellement et collectivement, comment on peut résister et se construire soustraire nos vies à la domination, c'est aussi soustraire à la domination du temps de l'autre. Et quand je parlais de l'Église, l'État ou le capitaliste, sur la question du temps, pendant longtemps, ceux qui donnaient l'heure, c'était l'Église à travers les cloches du clocher, quoi.
Alors, il dit aussi que philosopher, c'est apprendre à mourir.
Oh, ça a été dit déjà.
Oui, non, il cite ça.
Apprendre à mourir, mais nous craignons moins la mort que la vieillesse et l'impuissance.
Oui, très exactement, il dit si philosopher, c'est apprendre à mourir, voilà. Comme le disaient les sages, nous récusons ce verdict. Donc, quand même, c'est pas lui qui le dit, il récuse ce verdict, et puis il noue avec lui. Bien sûr, la mort nous accompagne, nos cellules meurent par milliers à l'instant où nous aurons lu cette phrase, et à l'instant où nous aurons lu cette phrase, elle ne sera plus. Mais nous craignons moins la mort que la vieillesse et l'impuissance, question grave qui ne peut être traitée ici. Quant à la mort des autres, contentons-nous de terminer, de citer ces paroles émouvantes d'Élisée Reclus, oui. Et comme on en a parlé avant, tu voulais les lire, lis-la.
Alors, je lis ce passage en hommage à un ami que nous avons perdu, François, Enrique.
Ah, je croyais que tu me disais que j'étais perdu. Merde.
non, pas encore. Et on dira ça de toi. Et on te le dit maintenant que t'es là.
Voilà. La mort de mon ami ne m'a point séparé de lui. C'est par l'affection non interrompue, par la solidarité qui s'étend d'une existence à l'autre, que se fait la continuité de la vie par-delà le tombeau. Les morts n'ont pas cessé de vivre quand les amis ont gardé leur mémoire toujours présente et suivent leurs entretiens commencés. Toujours sous le charme du regard et du sourire que l'on dit éteint désormais tout en jouissant encore. Les vivants en ont, eux, plus que l'image du mort et l'écho de sa parole. Ils ont hérité d'une étincelle de cette vie qui semble achevée et mêle à leur propre intelligence quelque chose de la pensée de celui qui n'est plus. L'existence continue ainsi d'évoluer d'un homme à tous les autres hommes par l'intermédiaire de ceux qui l'ont aimé. C'est tiré de l'imagination dérobée.
De Reclus.
Oui.
Oui, ben voilà, ça c'est un...
Donc Enrique était un compagnon de route, il était aussi notre technicien, membre d'honneur du groupe Louis Michel, et il est mort il y a 3 semaines. Nous lui avons rendu hommage, tous à la radio, parce que Enrique était quelqu'un de formidable. Pas une personne ne peut dire du mal de lui, tellement il était formidable, et il nous manque éternellement. Il nous manquera éternellement. Voilà. Donc, je ne sais pas si nous faisons une pause. Et si
pour aller réveiller Jean-Mi, quoi.
Voilà. Jean-Michel H. Et...
Alors, c'est bon ? Oui.
quand nous chanterons le temps des cerises, et guerre aux signoles, et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la deuxième partie de notre émission avec Jean-René, que nous recevons pour le numéro 53 de la revue
Réfraction.
Consacré à Ronald Craig et qui a pour titre Sur les ailes de l'utopie. Alors, on va remercier Jean-Mi pour cette pause musicale. Le temps des cerises par
Colette Renard.
Par Colette Renard, c'est délicieux. Merci Jean-Mi. Il est merveilleux, Jean-Michel. On le dira pas assez.
comme l'était Ronald Craig et le temps des cerises, alors version assez tout à fait classique, ça fait le lien avec un autre élément de la personnalité de Ronald Craig, qui est qu'il aimait pousser la chansonnette et pousser des airs d'opéra. Et dans ce recueil d'articles de Ronald et d'articles sur Ronald, il y en a un d'un autre camarade de Réfraction, Alain Thévenet. Chez qui Ronald avait l'habitude de descendre lorsque nous faisions les réunions à Lyon. Et Alain, dans ce court texte d'amitié et d'hommage à Ronald, rappelle que Ronald, en monsieur plus ou moins vieux, mais toujours avec son sourire, n'hésitait pas à se mettre en bas de chez lui et à pousser la chansonnette. Et notamment, Alain dit, membre depuis l'origine de la rédaction de Réfraction comme moi-même, il venait la plupart du temps chez moi lorsque la réunion du collectif se tenait à Lyon. Il chantait sous mes fenêtres le temps des cerises, ce qui amusait bien les voisins. Et donc voilà. Et de manière tout aussi touchante, plus triste, mais tout aussi touchante. Je me rappelle d'une réunion de Réfraction, une des dernières où a participé Eduardo Colombo, un autre membre du collectif. Entre cette dernière réunion pour lui et la suivante, il était mort. Et Ronald, c'était un moment de la réunion, s'était mis des fausses moustaches en carton rigolotes, comme au 19e siècle, entre le nez et la bouche, et avait chanté un air comme ça, une chanson révolutionnaire, je ne sais plus laquelle, et c'était tout à fait touchant.
Bien. Alors, nous allons passer à quelque chose de beaucoup plus dur, c'est le nouvel ordre cynique.
Oui, c'est un texte de... Que je reprenne la date. C'est un texte de...
Page 49.
Page 49, merci, tu es parfaite. Ah oui, mais réfraction numéro 8. Ah oui, donc 2002, oui, c'est ça. 2002, c'est juste après...
les attentats.
Juste après 2001. Oui. Tu n'as pas lié ça, mais 2001, c'est le 11 septembre 2001. Et donc, c'est une réflexion sur l'État... On dit Paris sera toujours Paris, mais là c'est pour dire l'État sera toujours l'État et la dimension totémique de l'État. Même alors en comparant un Al-Qaïda, puisqu'à l'époque les attentats étaient commandités par Al-Qaïda, il n'y avait pas encore Daesh, ça viendra après. Et c'est une réflexion sur toutes ces différentes propositions ou impositions d'organisation sociale qui se présente sous une forme différente, mais qui, si on prend l'analyse de l'État comme quelque chose de totémique qui est censé donner cette hétéronomie fondamentale, ce niveau qui légitime un ordre établi. Et qui évite d'avoir à justifier, enfin d'avoir un dernier niveau qui se justifie par lui-même. Je suis l'État, je suis en haut. À partir du moment où on atteint ce niveau-là, on n'a plus à justifier. Mmh. Et qui est le contraire de l'autonomie. L'autonomie qui est notre champ à nous, qui est un champ exigeant, puisque justement on ne peut pas avoir recours à quelque chose d'extérieur, de transcendant, qui viendrait à un moment donné dire stop, on arrête de débattre, on arrive au niveau où la transcendance, c'est ça et pas autre chose. Mmh. Et quand on se meut dans l'autonomie par rapport à l'hétéronomie, c'est à la fois plus exaltant, mais aussi beaucoup plus exigeant, puisque on doit constamment tout remettre en débat, tout redevient contingent dans nos relations les uns avec les autres et les constructions sociales qu'on fait ensemble.
Voilà, alors il faisait le parallèle entre la communion mondiale autour des Américains pour le 11 septembre,
oui.
Et sachant que les Américains, ces mêmes Américains qui étaient qu'on plaignait, se sont empressés quelques semaines plus tard de faire des bombardements massifs en Afghanistan.
Oui.
Et qu'on n'a pas eu la même compassion pour les Afghans qui, sous les bombes incendiaires des Américains.
Oui.
Donc c'est une question que cela soulève des questions. Le cynisme géopolitique des masses mondiales et donc...
Non, des décideurs mondiaux plutôt que des masses.
Oui, oui, justement, oui.
Oui, pardon. Excuse-moi.
Tu vois, c'est la preuve que je suis quand même.
Oui, hein?
Oui, c'est bien, François. Merci, merci beaucoup.
Oui, et dans cet article, il y a également... est articulé à l'intérieur de ces questions de l'État et de la guerre, puisque c'est à ce moment-là qu'on commençait aussi à en parler. On parlait de guerre de basse intensité.
Tout à fait.
Ou de haute intensité.
Voilà.
Et quand ça basculerait de basse à haute intensité, mais ça rappelle une logique destructrice de l'État et rappelant que ce qu'il appelle la guerre de basse, enfin ce qu'il met derrière la guerre de basse intensité, c'est tous les enjeux sécuritaires, tous les états d'urgence,
tout le flicage général.
On a vu effectivement nous tous que chaque événement traumatique et les attentats de 2001, il est hors de question de nier leur dimension traumatique, bien sûr. Mais ça devient le prétexte pour le pouvoir en place, pour renforcer
la sale guerre
et puis les pouvoirs de contrainte qu'il a sur ses propres populations et sur les autres.
Sale guerre qui tue beaucoup, beaucoup d'innocents et d'innocentes. à tel point qu'un stratège a pu dire que l'endroit où l'on risque moins de se faire ratatiner pendant une guerre, c'est quand on est militaire. Et je ne suis pas loin de partager cette façon de voir.
Oui, c'est pour ça qu'on a arrêté la conscription, pour limiter le privilège d'être militaire au moins de monde possible. Non, c'est évidemment une très mauvaise boutade.
Oui.
Sur cette question-là, sur le renforcement des outils de contrôle des populations par les États à l'occasion de chaque événement extérieur présenté comme une attaque de nos libertés, parce que dans les régimes libéraux et néolibéraux, des démocraties néolibérales dans lesquelles on est, on nous présente les attentats comme portant atteinte à quelque chose qu'on valorise, qu'on survalorise comme un état de liberté.
À la démocratie, monsieur, dame.
À la démocratie, voilà, c'est ça. Et, or, en fait, par ailleurs, moi, j'ai milité dans les collectifs pour les transports gratuits, à l'époque où je faisais partie du groupe Louis Michel. Et nous avions pointé, par exemple, que justement, suite aux attentats de 2001, c'est suite aux attentats de 2001 qu'en France était sortie la loi de sécurité quotidienne, oui, avec un premier ministre qui s'appelait Jospin, et pour lutter contre les attentats à New York en 2001, on en avait profité pour transformer en délit le fait de ne pas payer son ticket de transport, etc., comme si effectivement les militants d'Al-Qaïda, on arriverait à les choper par la fraude au transport.
En commun.
Voilà.
Oui, tout à fait. Bien, alors, on arrive à la page... Ah oui, il y avait un passage aussi qui m'avait interpellée dans ce passage, où, page 64... Dans le petit appendice, l'État reste l'État, et il faisait un parallèle avec le cas Papon. Parce que nous avons Jean-Jacques Gandini dans ceux qui rendent hommage à...
Oui, qui fait partie du collectif de réfraction et qui a ressorti récemment son livre sur le procès Papon.
Le groupe Louis Michel, la librairie Républico et Chronique Rebelle ont reçu Jean-Jacques Gandini le 23, vendredi dernier.
Je sais.
À Publico. Non, mais peut-être que
Chronique Rebelle, c'était samedi. Voilà. Et qui nous a fait faux bond pendant la réunion de réfraction pour aller à l'émission de Christiane, Chronique Rebelle, samedi.
Christiane, ça ne se refuse pas.
Ah ben non. Christiane Padevant, qui connaissait très bien
Ronald
Craig et qui. J'ai énormément de sympathie pour lui.
Voilà. Donc, vous pouvez écouter en podcast l'émission de Chronique Rebelle de samedi dernier. Et il est vrai que nous avions pris des précautions pour cette intervention de Jean-Jacques Gandini à Publico, parce qu'il y a 25 ans, lorsqu'il est venu, il y avait eu un incident majeur. Des gens avaient jeté une bombe lacrymogène à l'intérieur de Publico parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que disait Jean-Jacques Gandini sur le procès Papon auquel il a assisté. À toutes les séances et il explique bien, et le livre est en vente à Publico, la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, métro Oberkampf, Fille du Calvaire ou République
ou métro Ballard pour ceux qui aiment marcher.
Voilà. Bien. Donc, on va passer au Moyen-Orient, page 75, l'horreur
ethnographique.
Trois questions sur le Moyen-Orient.
D'abord, en rappelant l'avis de Ronald. Ronald est issu d'une famille avec quelques ascendances britanniques, quelques ascendances libanaises ou syriennes, à travers sa grand-mère maternelle, je crois, égyptienne, parce qu'en fait, il est né en Égypte. C'est un Africain, notre ami Ronald. Et donc, même si c'est dans son enfance, il a une expérience, une intimité avec, avec ce Moyen-Orient, ce nord de l'Afrique, nord-est de l'Afrique et le Moyen-Orient. Et là encore, on a un article, trois questions sur le Moyen-Orient, en fait, c'est la question palestinienne,
oui,
qui, quand on le lit, est malheureusement est extrêmement actuel.
Oh oui.
En questionnant, pour répondre par la négative, en questionnant la position des gauches d'une manière générale de la question de toujours la question de l'État, en fait, hein,
oui,
que la seule solution qui est la seule solution politique dont on parle, c'est celle d'un État ou deux États, mais toujours, même quand c'est deux États, ce sont deux États, un État israélien et un État palestinien.
Donc, il a fait un chapitre, enfin un sous-paragraphe qui s'appelle « L'État est une solution ou fait partie du problème ?» point d'interrogation.
Oui, ou fait partie du problème, puisque, en fait, au début et à la fin de son article, il rappelle ce qui, dans l'histoire au tout début du mandat britannique, le premier projet qui avait été imaginé par, je ne sais plus comment il s'appelait.
Balfour. Non, pas Balfour.
Non, pas Balfour.
Herzl.
Oui. L'anglais. Après la pause musicale, on va le retrouver. Oui. Mais bref, il avait imaginé une solution fédérale, fédérative, sans doute l'avait-il imaginé, lui, parce que c'était un Européen du début du XXe siècle, donc toujours avec quelque part un État, mais au moins c'était un État fédéral. Lui, Ronald Craig, quand il part de solutions fédératives, c'est une fédération dans le sens où on l'entendrait, nous, anarchistes, donc sans État, et qui semble effectivement... Dans cette réalité où l'histoire fait que il y a des Juifs, il y a des Palestiniens sur ce territoire, la seule manière de s'en sortir, c'est précisément de ne pas construire des structures sociales sous une forme d'État et qui rassemblerait, dont l'identité serait autour d'une seule dimension, juif d'un côté, palestinien de l'autre, et toujours une structure oppressive, oppressante, qui est celle de l'État. Et puis en rappelant d'ailleurs aussi que la question d'Israël, y compris au sein des populations et du peuple juif, que la question du sionisme a divisé, et pour ce qui nous intéresse, nous, dans les mouvements révolutionnaires et nous particulièrement anarchistes, il y a quand même l'histoire du Bund, qui était très très opposée au sionisme, en estimant que c'était précisément pas en se renfermant sur une idée de nation d'État-nation que le destin des Juifs serait le mieux assuré, et malheureusement on voit ce qu'il en est aujourd'hui, où l'État d'Israël concentre tous les travers et tous les horreurs d'une logique nationale, d'une logique coloniale, d'une logique guerrière, et d'une logique étatique.
Alors ici Tima Goldman, page 79, il rappelle ce qu'il faut rappeler de Arafat. Oui.
Oui, non, tu as raison, j'aime bien ta présentation, il rappelle ce qu'il faut rappeler de Arafat.
Oui. À savoir que l'autorité palestinienne, ils ont reçu beaucoup d'argent et qu'on n'en voit pas la couleur. Et il fait un parallèle entre l'ethnocide et l'ethnocratie, et il donne les définitions.
Ben, c'est-à-dire qu'il rappelle que on est prompt à... à définir le massacre du peuple palestinien qui est réel comme un ethnocide, puisqu'on effectivement, et puis là, avec ce qui se passe à Gaza, c'est d'une actualité effroyable pour ceux qui la vivent et terrifiante pour nous qui assistons. Et effectivement, c'est un ethnocide. Alors certains diront génocide, mais au minimum, c'est un ethnocide. Mais justement, dans cet article-là, il rappelle que l'ethnocide est le pendant de l'ethnocratie. C'est ce que je disais tout à l'heure, le fait de penser un État-nation sur la base d'une caractéristique de peuple, en l'occurrence le peuple juif, ça donne l'ethnocratie, et en face, ce qui se construit en revendiquant soit un État à la place d'un État palestinien à la place d'Israël, soit un deuxième État à côté en confrontation avec Israël, ça reste un État qui se définit par rapport à une nation par rapport à un peuple, et ça donne l'ethnocratie.
Voilà. Alors, il dit qu'il faut conjuguer l'éthique et l'efficacité. Il est plus honnête de s'engager sur son propre lieu de vie que de déplorer ce qui se passe ailleurs. Ça, j'ai bien aimé.
Oui, oui.
Ah ouais, tout à fait. Et le passé ne revient jamais, mais les peuples changent. Il n'y a qu'à voir la réconciliation entre la France et l'Allemagne. C'est un exemple flagrant.
Oui. Oui, c'est ce que tu cites là vient effectivement dans la partie conclusion de cet article où c'est toujours très difficile quand on constate une telle telles pulsions destructrices dans un lieu entre des peuples, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il rappelle que même si dans un premier temps inefficace, il y a des questions de solidarité avec les déserteurs des deux camps, il y a des questions de solidarité internationale, de boycott des produits d'Israël,
avec BDS,
qui peuvent paraître tout à fait minimes, mais qui permettent de ne pas céder à la séduction de se dire que c'est par la voie des armes qu'on résoudra le conflit, par la voie des armes côté Israël, mais également côté palestinien.
Bien. Alors, on arrive à un article excellent. Pour
un autre article actuel, oui.
Oui, très actuel, du bon usage de l'antifascisme.
Oui.
Qui propose une définition de Walter Benjamin, page 90. Alors, ah oui, je note tout.
Oui, je
veux. Je sais, c'est pénible.
Tu aurais une vie de prof que ça ne m'étonnerait pas parfois.
Je donne des cours.
Mais je sais, c'est pour ça que je dis ça.
Et mes élèves sont très bien formés. Pour affronter les questionnaires de la préfecture. Puisque ce sont des étrangers.
Je sais, oui.
Et que nous avons un ministre de l'Intérieur qui s'obstine à leur mettre des bâtons dans les roues pour les régulariser administrativement. Notamment par le biais des cours de français.
Oui, heureusement, le MEDEF veille et va rétablir un peu de justice sociale.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il a besoin d'une main-d'œuvre pas chère et corvéable, donc il est bien évident qu'il est opposé à ce genre de mesquinerie ministérielle.
La catastrophe, c'est que cela continue comme avant. Walter Benjamin.
Et alors, tu as le chic pour envoyer des questions, c'est assez difficile de reprendre derrière. Je vais dans un premier temps ignorer cette citation qu'il faudrait dérouler en lisant tout l'article,
oui.
Mais pour dire que cet article, ce qui est intéressant et ce que c'est encore une fois une expérience qu'on peut faire aujourd'hui, même si les acteurs sont pas tout à fait les mêmes, c'est la manière avec laquelle l'antifascisme dans les années de l'entre-deux-guerres s'est structuré comme le moyen pour les cocos essentiellement d'embarquer tout le monde derrière eux et leur faire respecter la voie qu'ils avaient choisie alors qu'on sortait d'une période, puisque l'antifasciste qu'il développe à la fin des années 20, enfin tel qu'on le conçoit justement, après une période des années 20 qui a quand même vu, juste après la Première Guerre mondiale, un foisonnement d'expériences autogestionnaires, libertaires, d'autonomie, que ce soit la République des Conseils en Allemagne, que ce soit les conseils ouvriers aussi dans le nord de l'Italie, que ce soit déjà en Hongrie d'autres expériences de conseils ouvriers. Dans une certaine mesure, même si on est déjà dans la logique du Front populaire antifasciste en 1936 en France, évidemment, la grande révolution espagnole en 1936, et où donc le fascisme, on le combat, non pas en s'alignant tous derrière, là aussi, un autre projet totalitaire qui a été historiquement le projet communiste, léniniste, puis stalinien, mais on le combat en promouvant précisément des expériences d'autonomie, d'anarchisme, et voilà. Et aujourd'hui, il est assez singulier, et on peut y réfléchir aujourd'hui chacun dans nos mouvements militants. Moi, j'ai dit que j'étais à la SNCF et je suis syndicalement à Sudrail. En relisant aujourd'hui l'article de Ronald Craig, ça ne peut pas ne pas m'interroger sur la manière avec laquelle, dans le syndicalisme, on combat le fascisme. Est-ce que c'est simplement en brandissant un drapeau sur lequel il y a écrit antifascisme et en convoquant toute une idéologie, un imaginaire des représentations qui sont en plus très issues, enfin on fait le parallèle avec l'entre-deux-guerres est toujours fait immédiatement, ou bien est-ce que c'est au contraire en travaillant et en promouvant l'auto-organisation des travailleurs dans des structures fédérales, et Sudrail essaye de maintenir cet idéal-là. On y arrive par certains côtés, on n'y arrive pas par d'autres, mais ça reste au moins l'étalon auquel on mesure nos échecs et nos succès. Et non pas nécessairement en ayant le discours Front populaire antifasciste. et quand je dis Front populaire, vous voyez bien à quoi je fais référence, puisque dans les temps nouveaux, ça devient un nouveau Front populaire.
Oui. Tout à fait. Donc, ce qui est de bien, c'est que c'est le paragraphe « Essor et répression des révolutions ouvrières ».
Oui.
Très bien fait. Ça, pour les jeunes générations qui n'ont pas les références historiques, c'est parfait.
Et pour la bascule vers l'antifascisme, dans le sens manière avec laquelle les cocos ont aligné tout le monde derrière eux, et ceux qui n'étaient pas alignés derrière eux l'ont senti passer. Mmh. Ceux qui avaient les cocos dans le dos l'ont senti passer, notamment en Espagne.
Oui. Donc, je vous renvoie à Hommage à la Catalogne d'Orwell.
Voilà, c'est ça. Où Ronald cite la manière avec laquelle. Alors, je vais citer le paragraphe. La relance du mouvement antifasciste européen va être surtout impulsée à Moscou. En juin 1923, lors d'une réunion de l'exécutif de l'International communiste, Clara Zetkin, qui représente le Parti communiste allemand, commente le fascisme dans un discours de propagande dont les termes aujourd'hui paraissent assez curieux. Et il cite Zetkin qui dit « Il, le mouvement fasciste, n'est pas la réponse de la bourgeoisie à une attaque du prolétariat, mais le châtiment qui s'abat sur le prolétariat pour n'avoir pas continué la révolution commencée en Russie. » Donc ça donne bien le programme. L'antifascisme, c'est du coup combattre le fascisme, c'est expier la faute des mouvements ouvriers, de ne pas avoir suivi le drapeau porté par Lénine, puis par trotskiste avec Lénine avant qu'il, avant qu'il se fasse lui-même désinguer, et Staline surtout. Et du coup, il montre, dans cet article-là, il montre bien comment l'antifascisme avec toutes ses représentations, est une prise de pouvoir par les cocos au sens soviétique du terme, enfin au sens, pardon, russe du terme, on va dire, une prise de pouvoir sur la contestation sociale ouvrière, et comment il met tout le mouvement social derrière lui, parce que ceux qui veulent continuer à être devant ou sur les côtés se font aligner.
Merci Jean-René, on va faire une pause. Merci Jean-Michel. Chers auditeurs de Pas-de-Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la dernière partie de notre émission avec Jean-René pour le numéro 53 de la revue Réfraction qui a pour titre Ronald Craig sur les ailes de l'utopie.
Qui est un numéro hommage à Ronald Craig.
Voilà. Alors, nous allons aborder le dernier article de Ronald Craig qui a été choisi, Reclus ou le grand récit de la Terre.
Oui, parce que l'un des centres d'intérêt de Ronald aura été Élysée Reclus. Et donc on ne pouvait pas, pour rendre compte des multifacettes du kaléidoscope qui est Ronald Craig, ne pas mettre un article sur Reclus, et là un article de Ronald sur Reclus. Et là encore, même si c'est un article qui date de 2005, donc qui a 20 ans, c'est également très actuel, puisque quelque part, dans les militances aujourd'hui écologistes, écologiques, par rapport au bouleversement climatique, je le dis comme ça pour pas parler simplement de réchauffement climatique, les bouleversements ne sont pas que sur le plan de la température. Et ben la pensée d'Élysée Reclus, la pensée d'Élysée Reclus par rapport à la Terre, qui n'est pas un fantasme d'un être supérieur, la Gaïa qui serait au-dessus et qui serait à nouveau une autre référence supérieure transcendante.
Ouais, c'est un peu métaphysique
par rapport à laquelle il y aurait un vrai et un faux. On cite toujours la belle phrase d'Élysée Reclus, l'homme c'est la nature qui prend conscience d'elle-même, et qui invite à tisser des relations différentes avec les éléments de vivant et se penser dans le vivant pas ni à côté ni dessous mais faisant partie de. Mais je ne vais pas développer plus puisque tu vas rappeler.
Oui, nous avons fait une émission sur Élysée Reclus, sur son abécédaire, et nous avions reçu Nicolas Éprendre, qui était l'un des quatre coordinateurs de cet abécédaire, que l'on peut trouver à Publico. Oui, je sais que ça fait promotion, mais c'est la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, métro Oberkampf, Fille du Calvaire ou République, dans le 11e arrondissement. Et l'abécédaire de Élysée Reclus est une des ventes majeures de Publico. Il s'est très bien vendu. Et il continue à se vendre très bien, d'ailleurs. Donc, si vous voulez savoir, tout savoir sur Élysée Reclus...
Donc, si vous voulez faire comme tout le monde, achetez l'abécédaire. Et si vous voulez pas faire comme tout le monde, achetez l'abécédaire et un autre livre qui, lui, ne se vend pas.
Qu'est-ce qui ne se vend pas?
Alors, je sais pas. Alors, ou qui ne se vend pas, c'est pas un bon critère. Mais si vous voulez acheter un autre livre en plus de l'abécédaire d'Élysée Reclus, ben, par exemple, vous pouvez acheter le numéro 53 de la revue Réfraction, Ronald Craig, sur les ailes de l'utopie, qui est en vente à Publico. Ailleurs aussi, mais à Radio Liberté, je ne peux pas faire autrement que de citer d'abord et quelques éléments Publico.
Merci, Jean-René. Alors, revenons sur Élysée Reclus et ce qu'en dit Ronald Craig. Donc, il dit bien petit et grand récit.
C'est un fait.
Page 112.
Oui, alors là, tu me prends un peu de...
Précise, Mariama. Il dit petit et grand récit.
C'est la tête de chapitre. Nous connaissons tous des gens pour qui tous les mots de notre pays viennent du péché originel ou des immigrants, au choix des croyances. L'homme et la femme sont des animaux qui cherchent du sens. Rien ne les comble tant que ce qu'on appelle la grande narration qui prétend déchiffrer le monde, la société, l'histoire. Donc c'est ça les grands récits.
Ah, c'est les mythes fondateurs, c'est ça?
Bah, je ne sais pas le dire.
Oui, non... Non, mais alors tu me prends de court, puisqu'on avait décidé de passer aux éléments suivants, puisque tu renvoyais toute l'émission que vous aviez fait sur Reclus avant, et qu'on voulait garder un peu de temps pour évoquer les manifestations d'amitié à la fin du numéro.
On va faire l'impasse sur Élysée Reclus.
De façon, non, c'est pas qu'on va faire l'impasse, c'est qu'on
renvoie l'excellente émission. Ils peuvent écouter l'émission en podcast sur le site du groupe Louise Michel et acheter les ouvrages d'Élysée Reclus qui sont vendus à Publico, entre autres, mais dans d'autres librairies, parce que Élysée Reclus C'est un grand monsieur. Mais je voudrais qu'on fasse un hommage à une des autrices de Réfraction qui nous a quittés, Claire Ozias.
Alors, dans ce numéro de Réfraction, il y a effectivement aussi... Ça peut faire un petit peu macabre, parce qu'il y a aussi un hommage à une autre personne morte cette année, qui est donc Claire Ozias. Claire Ozias est liée à Réfraction de manière très très clairosacienne, on va dire. Elle a fait partie des membres qui ont au collectif de départ de Réfraction, et elle en a claqué la porte de manière
flamboyante
comme Claire savait faire dès le numéro 2 quand ceux qui ont vécu ce moment-là le racontent. Personne ne l'avait vu venir et voilà à la Claire Ozias. Et pour alors par ailleurs, c'est une personne qui nous retrouve. On fait deux réunions par an, on fait deux numéros par an et deux réunions par an. Et que ce soit à Lyon ou à Paris ou ailleurs, si elle est dans la ville dans laquelle on se réunit, elle vient très volontiers toujours nous rendre visite à la fin du premier jour du week-end pour l'apéro. Donc elle n'est pas quand elle a claqué la porte, c'est pas pour nous vouer aux gémonies et ne plus jamais nous parler. Au contraire, elle venait, mais c'était quelqu'un d'assez impulsif, mais par ailleurs, bien sûr, avec une intelligence, une curiosité, par rapport à plein de sujets sur les Roms, sur le mouvement libertaire lyonnais des débuts, sur les marges. Les marges de la société l'article d'elle, parce que c'est un hommage à Claire Ozias par Claire Ozias, en fait c'est un article que Marianne Henkel nous a retrouvé et qui est un joli texte sur la question de la vieillesse. Le fantasme ou l'espoir d'un phalanstère pour vieux, d'une organisation entre vieux et vieilles autogérées, ouverte, qui correspond bien au personnage. Dans ce texte, Claire nous envoie même une petite pique contre Réfraction. Alors, il y a eu un petit débat rapidement tranché entre nous sur est-ce qu'on va mettre dans Réfraction un texte de Claire Ozias où elle nous étrille. Et puis en même temps, j'ai un bout de phrase comme ça au passage.
C'est flamboyant.
La prise en passant. Et moi, j'ai fait partie de ceux qui estimaient que, comme ça correspondait bien au personnage, c'était très bien de mettre dans Réfraction un texte de Claire, en hommage à Claire, y compris avec ce petit bout de phrase qui nous étrille à la fin d'un paragraphe au passage. Et là aussi, c'est un texte qui non seulement est c'est pas simplement un texte pour dire du bien de Claire Ozias, c'est un texte de Claire qui est intéressant, qui fait réfléchir sur les organisations sociales qu'on pourrait construire nous-mêmes de manière autonome et autogérée pour les vieux, mais exactement. Pour les vieux, et qui est à mettre en parallèle avec la question des EHPAD aujourd'hui, avec la question d'être autorisé à la fin de vie quand vraiment l'arrive à la fin, on vous autorise à mourir, sinon vous n'avez pas le droit. Tant que se donner la mort aurait un sens, on n'a pas le droit de le faire, et c'est une fois que ça ne sert plus à rien qu'on a le droit de le faire. Ça, c'est pour rappeler les questionnements du droit à mourir et du suicide de demande d'emploi de Claude Guillon. Mmh. Voilà. Et donc voilà, on a ce beau texte de Claire Ozias. À la fin des numéros des articles de Ronald, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une série d'articles sur Ronald. Il y en a un donc de Pierre Sommermeyer qui... Mais ça, j'en ai déjà parlé par rapport à l'accompagnement de Ronald autour d'Aura Forum, puisque Pierre s'est impliqué dans d'Aura Forum, et puis il explique les différents petits d'Aura Forum et un petit qui continue d'exister, qui est le site de Divergence, une revue internationale sur l'actualité, libertaire sur l'actualité, et qui mérite toujours d'être consulté. Il y a un texte de Daniel Haas qui a été très longtemps et jusqu'au bout avec Ronald, tout simplement parce qu'elle habitait pas loin de chez lui, et qui raconte de manière sensible comment elle a connu Ronald et comment en étant en faisant un travail de secrétariat pour organiser la bibliothèque, ses travaux, la mise en ligne sur un forum des textes que Ronald estimait pertinents d'eux, elle montre de manière assez sensible comment, en faisant ce travail-là, elle rentre dans la pensée de Ronald, et puis avec cette personnalité d'une très très grande gentillesse, d'ailleurs c'est aussi une des caractéristiques de Ronald et qui ressort de tous les témoignages de ceux qui l'ont connu, c'est quelqu'un dont la gentillesse était
proverbiale.
Et puis tout à fait sensible et voilà, tout le monde et dans toutes les langues, puisqu'il aura fréquenté de nombreuses personnes de différents horizons, c'est notamment ce terme de gentillesse qui ressort de partout. Avec également un texte qui, je parle de gentillesse parce qu'il est dans le titre, Ronald, des livres, des chansons et un océan de gentillesse, d'Isabelle Félicie. Et puis, il y a un texte un peu plus long de Jean-Jacques Gandini, qui est intéressant et touchant à la fois, parce que l'année, il y a 2 ans, je crois, Jean-Jacques s'était vu remettre par Ronald un texte que Ronald lui avait présenté comme son autobiographie, et qui avait la particularité de, sur je ne sais plus combien de pages, Jean-Jacques le rappelle, il y avait juste les 10 dernières pages qui étaient autour de sa période anarchiste, qui aura quand même correspondu à plus d'une quarantaine de sa vie, oui, sans doute même plus. Et en fait, ce qu'il avait présenté à Jean-Jacques comme son autobiographie, c'était toute la période d'avant, donc toute sa jeunesse, son enfance et sa prime jeunesse en Égypte, et puis son parcours en France quand il pense qu'il a un destin de servir Dieu, et puis comment il va aux États-Unis parce qu'à un moment donné il dit il faut que je trouve un. Alors, il visait la recherche et l'université. Et s'il va aux États-Unis, c'est parce qu'il s'aperçoit qu'il y a un champ dont personne n'a parlé jusqu'à maintenant, c'est précisément ses expériences utopiques aux États-Unis, et se choisit ce champ-là. Et voilà. Et là, dans ce long article, Jean-Jacques nous donne quelques meilleures feuilles de cette autobiographie qui devrait paraître à un moment donné un jour, peut-être augmenter, je ne sais pas comment Jean-Jacques a l'intention de le faire, mais du coup c'est un article long et assez sensible qui nous donne à voir comment Ronald parle de lui-même dans toute la période d'avant.
Donc je rappelle que monsieur Jean-Jacques Gandini est l'auteur du procès Papon aux éditions Le Passager Clandestin.
Oui.
Voilà.
Monsieur Jean-Jacques Gandini.
Voilà, tout à fait. Oui.
Mais tu as tout à fait raison, tu es extrêmement poli, c'est très très bien. Monsieur Jean-Jacques Gandini, oui, c'est vrai.
Bien. Alors, il est dit que depuis 1997, la revue Réfraction privilégie la pensée critique et la pluralité des approches, parfois conflictuelles, voire antagonistes, dans la poursuite d'une compréhension libertaire du monde.
Wow. Oui, on s'est limité. Oui,
on le projet. C'est pas rien. Hein.
J'y étais pas, mais je pense qu'on a dû hésiter entre univers ou galactique et monde. Et puis finalement, on a dit on va commencer par le monde. Non, mais plus sérieusement, effectivement, ce qui caractérise réfraction. Et ce pourquoi je pense réfraction est reconnu dans l'édition libertaire et même parfois un petit peu aux marges quand on arrive à avoir des sujets qui nous permettent d'aller au-delà du mouvement libertaire, c'est l'envie du collectif de départ qui étaient tous des militants aguerris qui avaient un parcours militant et qui avaient un parcours militant qui était différent les uns des autres, parfois antagoniste dans la manière de penser la fin, les moyens et la cohérence entre la fin et les moyens, mais qui avaient le désir ensemble de penser le monde, justement, de pas simplement rabâcher des représentations de l'anarchisme, on va dire, historique. Certains des ouvriers, mais l'anarchisme n'a jamais été que ouvrier, donc on va dire l'anarchisme historique, et d'essayer de penser le monde autour de soi et d'influer sur le mouvement militant anarchiste à travers la meilleure compréhension qu'on peut faire du monde autour de soi et pas en rester à des représentations anciennes. Et donc, ce qui caractérise réfraction, c'est des personnes avec des parcours différents, avec des manières de raisonner différents, qui ont juste envie de penser ensemble, même s'ils peuvent ne pas être d'accord. Et donc, les numéros de réfraction se caractérisent par cette mise en débat par rapport à une thématique, des articles qui se répondent, se complètent, s'affrontent. Lorsque le numéro 5 de réfraction qui dit, qui s'appelle violence, non-violence, contre-violence, c'est l'affrontement entre des militants qui représentent ce qu'aujourd'hui on appelle la désobéissance libertaire. Mm-hmm. Ça s'est appelé violence, non-violence, mais le terme de violence, du coup, est trop
violent.
C'est pas qu'il est trop violent, mais à chaque fois qu'on a fait des débats, et tu te souviens, François, on en avait fait un au groupe Louis-Michel, ce terme est bloquant. Il est trop connoté, il est bloquant, alors que... C'est pas la violence, et puis celui qui reste là à se prendre des baffes. Enfin, c'est pas celui qui donne des baffes contre celui qui se prend des baffes. C'est autre chose. Donc aujourd'hui, on appelle ça la désobéissance libertaire. Et puis en face, des tenants d'un mouvement révolutionnaire où nécessairement le mouvement révolutionnaire est un moment violent, et quand on dit violent, c'est on pense nécessairement à une prise des armes d'une manière ou d'une autre, quoi. Hein. Et ce sont deux points de vue, deux manières de penser la révolution ou le moment révolutionnaire qui sont tout à fait opposés et par certains côtés peu conciliables. Et de ce conflit-là naît un numéro où dans ce numéro 5, ils viennent s'affronter des points de vue et puis au lecteur ensuite de se faire sa propre opinion. Là, j'ai parlé du numéro 5, mais on peut aussi... On avait fait un numéro, d'ailleurs, 31, sur les conflits eux-mêmes, qui s'intitulait « Les conflits, c'est la vie », et en quoi le conflit peut être créateur de quelque chose, et pas simplement destructeur. Et donc, voilà, la revue Réfraction se caractérise par ça, c'est pas une revue qui porte une ligne éditoriale dont on dirait que c'est celle qu'il faut suivre, mais qui met en débat, confronte, fait s'affronter, fait se compléter des points de vue différents avec cette ambition de mieux comprendre le monde autour de nous pour y agir mieux, plus efficacement.
Waouh. François ?
Oh bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Hein ? C'est bien, infraction, hein ? Voilà.
Pas Bah, si, on peut rappeler peut-être que c'est en vente à Publico, 145 rue Amelot.
Surtout les stations de métro, ça m'intéresse.
Voilà, métro. Alors, Ballard pour ceux qui aiment marcher, et sinon, Fille du Calvaire, République ou Oberkampf.
Voilà, alors, dans le numéro 53, vous avez un petit formulaire qui vous permet de vous abonner à Réfraction et qui vous permet aussi de récupérer les anciens numéros dont a parlé éventuellement Jean-René.
C'est-à-dire que oui, alors je suis partagé, puisque à la fois étant Radio Libertaire, nous devons diriger nos auditeurs et nos auditrices vers la librairie Publico pour qu'ils achètent du monde Réfraction, et en même temps, c'est
surtout une qu'elle est desservie par 3 stations de métro.
Mais oui,
ça,
oui.
On ne le dira jamais assez.
Et en même temps, Réfraction est une revue auquel on peut s'abonner. Alors ceux qui s'abonneront, ils iront aussi à la librairie du Monde Libertaire, mais pour, du coup, une fois qu'ils seront abonnés, pour acheter autre chose que Réfraction.
Et puis, s'abonneront ceux qui nous écoutent sur Internet et qui peuvent pas
effectivement, venir. Voilà. Et effectivement, Réfraction, nous, comme le but, c'est qu'un maximum de perdus lisent Réfraction, et même s'il y a des cyclopes, même un œil, ils ont le droit de lire Réfraction, ils doivent lire Réfraction. Et donc, si vous vous abonnez, vous avez, à chaque abonnement ou réabonnement, nous vous offrons 2 numéros anciens qu'on vous donne gratuitement pour tout abonnement que vous prendriez.
Une offre à ne pas refuser.
Voilà.
Et on peut choisir le sujet des...
Ah ben, bien sûr.
Ah oui, c'est bien. Sans rire, c'est bien ça.
Oui. Bah oui, parce que le but, c'est qu'il ne soit pas dans des cartons.
Et qu'il circule.
Voilà.
Bien. François, merci. On va remercier Jean-René d'être venu.
Merci à vous, merci au glorieux groupe Louis Michel.
Et merci à celui sans qui il n'y aurait pas d'émission, Jean-Michel, qui a choisi les 2 pauses musicales. Surtout la deuxième.
Ah bon, moi j'ai bien aimé la deuxième.
Ah oui,
c'est ça. Non.
si,
j'ai dit surtout la deuxième pause musicale. Bien.
Colette Renard, elle a une voix acidulée et on se demande des fois si elle se fout pas un petit peu de ce qu'elle chante. Elle est très moqueuse, vous savez, cette dame-là.
Comme le merle éponyme.
Oui.
Bien. Alors, comme chaque quinzaine, on vous remercie de votre écoute attentive, on vous souhaite le meilleur et on vous dit faites attention à vous. Et rendez-vous dans 15 jours. Merci beaucoup.
Et ceux qui nous écoutent et qui nous écoutent et qui n'ont pas écouté peuvent retrouver l'émission, comme toutes les autres émissions, sur le site du groupe Louise Michel.
groupe-louise-michel.org.
Il faut tout faire ici dans cette radio. C'est l'autogestion, quoi.
Tout à fait.
Bon, Jean-Mi, mets de la musique, là. Fais quelque chose. Ça va mal se terminer, cette affaire.
Même sur qu'on construit, le musil, l'orage, le venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, y compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la souche et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais j'excuse l'Élysée si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me petit futur, la gloire pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, ce qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer à sa tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains.
Hé, 50 kilos de tête, un sac de sueur de bois, il te sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Un vrai magicien, un jour. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur claque-merde.
Je pense que quand on mettra les consorts, ils ne vont plus.
Tout le temps,
vous seul temps, mais
pour la prendre des décisions.
J'ai collé une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner.
Allez. fin d'un exercice. Une alerte à la population est en cours.
La connerie à ce point-là. Moi, je dis que ça devient gênant.
Finalement, c'est un peu ça le but dans la vie, non ? Il ne sert à rien foutre.
J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille bûche.
C'est chouette pour une métaphore, non ?
C'est pas une métaphore. C'était des phrases. En train de brancher. Ça, c'est une métaphore.
C'est une bonne que tu as de classer partout comme la race. Excessivement bien.
Doute bien, t'as des excuses. Tu fais le dernier des métiers et ta mère était le plus beau code vérole tertiaire du département.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
Les dingues, je les soigne. Je vais faire une ordonnance. Et une stélaire. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Pour 4 points de Paris, pour le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle.
On m'a coupé, ça va encore tourner autour du trou de porte.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, ça prend des tours.
Tu marines dans le pinard comme des scuds en
on sent plus de la bulle, c'est du 11 degrés 5.
Tu causes pas, tu dégueules.
Ouais, people.
T'es tendu comme une corde.
Mais non, je suis pas tendu.
Si t'es tendu.
Bah non.
Si je te dis que t'es tendu. T'as pas attendu, je suis pas tendu.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases.
Ou tu sauves ou je te sauve et on prend des décisions.
Écoute, on te connaît pas. Et laisse-nous te dire que tu prépares des nuits blanches. Des migraines.
Attention.
Des nervous breakdown.
Une alerte à la population est en cours.
Tiens, de la part de Mickey Willis.
Oh, fais-moi le malin maintenant ! On fait pas le malin !
I'm not.
Let's go now, little one. Somebody turn the hand of doom.